Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Alors, je m'appelle Selena, je suis consultante en parentalité et éducation. J'ai été formée 3 ans par Isabelle Filiosa et son équipe. J'anime également des ateliers Filiosa, certains noms. Je suis également formée en discipline positive, qui est une autre approche éducative par l'encouragement. Et que te dire de plus, je suis également thérapeute familiale, donc je suis actuellement en train de me spécialiser sur un cursus de 4 années. Voilà.
D'accord.
Dans les grandes lignes.
D'accord, tu fais thérapie à distance, en présentiel, les deux ?
Les deux. Je fais de la visio et je fais du présentiel. Je consulte à Aix-en-Provence le jeudi et également à Fulvo, qui est à 1/4 d'Aix, le vendredi
et
le samedi.
Merci. Merci pour ces renseignements, Selena. Ça peut toujours servir aux personnes qui, du coup, viennent de par là-bas ou qui souhaitent justement faire une thérapie à distance, qui se disent « Ah mince, on ne pourra pas si elle habite par là-bas ». Donc, n'hésitez pas, la thérapie en distance est possible. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler ensemble de cette problématique, ensemble, donc comment construire un lien d'attachement sécure avec son enfant. Alors, justement, Selena, l'attachement sécure, c'est quoi ?
Alors, l'attachement sécure. Alors, avant de parler d'attachement sécure, je vous propose déjà de définir c'est quoi l'attachement. L'attachement, en fait, c'est un mécanisme neurobiologique de survie. Voilà, fait beaucoup de mots. Donc, système, pourquoi ? Parce que c'est un système avec des signaux d'alarme, donc qui s'allument et qui s'éteignent. Donc, voilà, je reviendrai là-dessus dans les détails plus loin. Et c'est un système neurobiologique puisque c'est inné. On est avec cette compétence dès la naissance, de par notre immaturité cérébrale, parce qu'on vient au monde totalement dépendant de l'adulte, et donc on a besoin en fait de proximité avec lui. Et ce système d'attachement, il a vraiment pour fonction initiale de rapprocher l'adulte pour m'aider moi à réguler tout ce que je ne sais pas réguler, c'est-à-dire mon stress, mes émotions. Et je ne peux pas faire autrement que d'être comme ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attachement, on ne choisit pas de s'attacher ou de ne pas s'attacher. L'attachement, il est inné. Et si soit je m'attache, et alors je vais m'attacher de façon, on va dire, sécure ou insécure, et on va reparler de ça plus tard, ou alors je ne peux pas m'attacher, et là, je me laisse mourir.
Voilà. D'accord.
On a vu ça dans les camps, n'importe quoi, dans le poste, dans l'après-guerre, dans l'Europe de l'Est, dans tous ces orphelinats et ces pouponnières, où en fait, on n'avait pas ces connaissances, et du coup, toutes les personnes qui s'occupaient des enfants, les nourrissaient, les changeaient, voilà, ils dormaient, ils avaient tous les besoins physiologiques étaient couverts, mais on ne les prenait pas dans les bras, et on a commencé à observer que les enfants se laissaient mourir, et donc, dans les cas les plus dramatiques, ils mouraient vraiment. Donc, c'est vraiment un besoin physiologique de base. Voilà, c'est bon, c'est vraiment la notion à aborder, déjà en premier lieu. Et l'attachement sécure, c'est quoi ? En fait, c'est la qualité optimale de l'attachement. C'est-à-dire que, à la fin, cette qualité d'attachement que j'aurai développée, elle va en fait me permettre, dans le cas sécure, de vraiment réguler bien mon stress, de bien vivre mes émotions, de pouvoir les exprimer, de me sentir en confiance dans ma sécurité intérieure, d'être en confiance relationnelle avec l'autre, d'avoir confiance en la vie, de pouvoir développer des projets, de développer des relations saines, et d'avoir des stratégies comportementales, cognitives, enfin, globales, qui vont me permettre d'être épanouie, en fait, tout simplement, et de bien vivre ma vie. Donc, si j'ai un attachement sécure, ça me donne toutes les chances, en fait, dans ma vie, de pouvoir faire les bons choix pour moi, et de développer des bonnes relations et d'optimiser mon bien-être, en fait, tout simplement.
D'accord. Alors, justement, Selena, comment il se constitue ce lien d'attachement ?
Alors, comment ça marche en gros, en quelques mots ? On a vu que c'était un système de survie, donc. L'attachement, en fait, il prend 9 mois à se construire avec la figure principale d'attachement. Alors, en fait, tout simplement, je suis donc un bébé. Et la personne, en fait, adulte qui aura répondu le plus souvent à mes besoins de façon récurrente, de façon cohérente, c'est-à-dire sans surréagir, de façon adaptée et adéquate par rapport à mon besoin, et qui investit une relation chaleureuse avec moi va devenir très probablement ma figure principale d'attachement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première. Je reviendrai dessus là-dessus. Donc il y a une vraie, il y a un vrai enjeu la première année de vie où se construit cette figure principale d'attachement et qui va répondre à ce besoin de sécurité de base. Ça va venir temporiser en fait toute ma peur que j'ai, soit parce qu'à l'intérieur de moi je sens que je ne vais pas bien et je ne sais pas ce qui se passe, donc je vais appeler ma figure d'attachement pour venir m'apaiser par rapport à ça, ou alors une peur par rapport à mon environnement, il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, enfin, je ne sais pas. Voilà, donc ça va venir réguler toutes ces choses-là. Le fait de me sentir en sécurité va venir développer en fait mon cerveau, je vais continuer à pouvoir grandir et développer d'autres compétences. C'est vraiment l'enjeu de la première année. Et comment ça se passe? Et bien en fait, ensuite, plus je vais grandir de la même façon, donc mes besoins vont évoluer en fonction de mes compétences et de mes capacités, et je vais développer d'autres attachements avec tous les adultes en fait qui s'occupent de moi. Voilà, et donc, parce qu'en fait, mon enfant, en fait, il a besoin de plusieurs figures d'attachement. Hein. Il n'y a pas que la principale. Ça, c'est la première qui me permet voilà, de me focaliser sur la personne ressource numéro un. Parce que, voilà, encore une fois, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que ce n'est pas une question d'amour, l'attachement. C'est vraiment un système de survie. Et donc, dans mon cerveau d'enfant, eh bien, cette personne-là, elle est considérée comme ma ressource numéro un qui va probablement répondre le plus vite et de façon la plus adéquate à mon besoin. Et donc, si cette personne-là, elle est dans la même pièce que toutes mes autres figures d'attachement ou des inconnus, elle va rester prioritaire. C'est pour ça qu'on voit souvent les petits-enfants, quand ils ont passé l'après-midi avec papa, on va dire, on va faire cet exemple-là, et maman arrive dans la pièce, et ben ils courent vers maman, ils veulent que maman. Ça ne veut pas dire que d'un coup, l'enfant n'aime plus son papa. Ça veut juste dire que figure principale d'attachement est arrivée, j'ai besoin de me connecter en priorité à celle-là. Et une fois que je me suis connectée, je vais pouvoir repartager avec mon environnement.
D'accord. D'accord. Je vois un commentaire, Selena, de Virginie, qui dit « Je travaille en crèche et on nous amène les enfants de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est forcément négatif ?» Elle a l'air mécontente, c'est pour ça que je te dis ça.
Ah, est-ce que c'est négatif ? Alors, jeune, tout dépend de... Enfin, j'ai envie de dire, c'est quel âge de plus en plus jeune. Parce qu'évidemment, la qualité de l'attachement sécure, il y a besoin quand même d'une régularité et d'une présence quand même assez importante les premiers mois, donc sur cette première année qui est fondamentale. Après, c'est pas parce que l'enfant est jeune qu'il va forcément vivre mal cette situation. Ça va vraiment dépendre de quel cadre on va mettre autour de ça et pouvoir créer vraiment des zones de prévisibilité. Et encore une fois, d'observer l'enfant, tout simplement. C'est-à-dire que si on voit qu'il vit mal de passer, par exemple, toute la journée à la crèche, ça va demander à l'adulte de dire, bon, ça n'a pas l'air de bien se passer pour lui, est-ce qu'il voudrait peut-être mieux réduire les plages horaires où il va à la crèche? Donc, ça demande vraiment de pouvoir observer ce qui se passe pour l'enfant et de s'adapter aussi à ça et de pouvoir créer les conditions qui vont permettre que ça se passe bien pour l'enfant. Et donc oui, les adultes qui entourent l'enfant ont besoin de rester attentifs, oui, aux sollicitations et aux réactions de l'enfant puisqu'il ne peut pas parler. Et donc ça va vraiment passer par ces signaux.
Selena, il y a Virginie qui ajoute du coup que elle parlait d'enfants de 6 mois. Ouais, entre 6 et
6 mois.
9 mois, oui.
Alors, il se passe quelque chose d'intéressant au point de vue de ce système d'attachement à 6-9 mois. Parce que vous avez bien compris, l'enjeu de la première année, c'est vraiment cette proximité aussi bien physique que émotionnelle et mentale. À 6-9 mois, en fait, l'enfant, il commence vraiment à faire des distinctions au niveau de ses figures d'attachement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ce stade-là, l'enfant, en fait, il va émettre, par exemple, il va crier, il va pleurer pour qu'on vienne le réconforter. Mais ça ne va pas être dirigé vers une personne. Et à partir de 6-8 mois, comme je disais, l'attachement prend 9 mois. Donc, à partir de ce moment-là, l'enfant, il sait reconnaître quelle personne est qui. Et donc, il va établir des ordres de préférence. Et donc, une fois que l'attachement est fait, il va manifester plus vigoureusement, il va réagir à la séparation. Parce qu'une fois que la figure d'attachement, par exemple, principale, elle est faite, elle est identifiée comme ça, elle n'est pas remplaçable. Et donc, elle est spécifique. Ok? Donc, c'est normal qu'un enfant à 6, on va dire entre 6 et 9 mois, quand la figure principale d'attachement s'en va, il y ait des pleurs, il y ait une manifestation très forte au moment de la séparation. Et ça ne veut pas dire que c'est un problème. C'est la qualité des retrouvailles qui va signifier, qui va pouvoir être une mesure pour regarder la qualité de l'attachement et non pas les signaux de séparation. C'est tout à fait normal qu'un enfant réagisse parce que dès que la figure d'attachement s'éloigne pour l'enfant, vu que son but c'est de la rapprocher de lui, et bien forcément c'est un signe de danger potentiel de l'éloignement de la figure d'attachement. Donc et bien il va réagir. Il faut regarder le comportement derrière. Qu'est-ce qui se passe au moment des retrouvailles ? Si l'enfant est joyeux et qu'il s'apaise assez rapidement, il n'y a pas, pas vraiment lieu de s'inquiéter. Par contre, si on a du mal à calmer l'enfant et qu'il reste dans une sorte de colère ou beaucoup de pleurs qui ont du mal à s'arrêter, oui, ça peut être un signe où l'attachement est peut-être un peu insécure.
D'accord. Merci. Merci, Selena, pour cette explication. Comment alors, finalement, on peut développer un attachement sécure avec son enfant ?
Ouais, c'est une grande question, ça. Eh bien, alors, tout d'abord, je voulais mettre en lumière certains points de vigilance avant d'aller vraiment dans les détails. Donc, l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Hein. Donc, c'est vraiment important parce que souvent, on fait un peu cette confusion parce qu'en français, attachement, ça veut dire s'attacher à quelqu'un de façon sentimentale, affective. Alors que là, on parle vraiment de mécanisme. Donc, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une question d'amour. Mais évidemment, l'un et l'autre hein, s'entretiennent. OK ? Il y a une indifférence au sexe. On a tendance à penser que c'est la maman, la figure principale d'attachement dans toutes les situations, alors que non. C'est vraiment, dans nos sociétés, ça va être la mère la plupart du temps. Et oui, parce que c'est la maman qui prend son congé maternité, la plupart du temps, c'est la maman qui prend un congé parental. Et donc, c'est cette personne qui passe le plus de temps avec l'enfant et qui donc répond le plus souvent à ses besoins. On a observé que si c'était les papas, c'était les papas qui devenaient la figure principale d'attachement. Ok. Ce qu'il faut faire attention en tant que parent, c'est à son niveau propre d'anxiété, de stress et d'émotion. Au niveau comment on gère ses émotions, puisque si on rentre dans une hyperprotection ou une hypervigilance, ben c'est là où ça insécurise, parce que justement, on ne permet pas, par exemple, au début, la première année, comme j'ai dit, c'est les besoins d'attachement, donc c'est le fait d'être proche. Pour pouvoir se détacher et aller vers l'extérieur et pouvoir que le système d'exploration, qui est un autre système qui arrive à partir de 9 mois et environ jusqu'à 3-4 ans, pour pouvoir lui se permettre de se mettre en place, eh ben, il faut être stable, sécure. Si l'enfant il a un doute sur la disponibilité de la figure d'attachement, il ne va pas prendre le risque de s'éloigner pour vivre ses expériences, il va rester collé à lui. Mmh. Okay ? Donc on a besoin d'être vigilant à ne pas être dans la surprotection, voilà, cette hypervigilance qui peut entraver en fait le développement de ce besoin d'exploration, qui fait aussi vraiment partie intégrante des besoins d'attachement et de développement de l'enfant.
Selena, est-ce que tu pourrais nous donner juste un exemple d'hypervigilance, un exemple concret pour qu'on puisse voir
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, par exemple, c'est tout à fait normal qu'un bébé mette des choses dans la bouche, puisque ça passe beaucoup par l'expérientiel au niveau corporel, l'exploration dans un premier temps. Donc si on enlève toute la possibilité à l'enfant de pouvoir goûter l'objet, sentir les textures, on entrave en fait ce besoin naturel de comprendre son environnement. Donc voilà, faire attention à ce qu'il met dans la bouche, évidemment, pour pas qu'il s'étouffe, pour vigilant par rapport à ça, oui, mais pas tout enlever. Être plutôt en mode, je vais te laisser des choses pour que tu puisses librement les mettre dans la bouche. Et voilà, il ne faut pas avoir peur que tout est sale parce que c'est par terre. Si on a une hygiène correcte dans la maison normale, c'est suffisant. Évidemment, on fait attention, mais voilà, pas rentrer dans vraiment j'enlève tout parce que sinon il y a des microbes. Voilà, ça c'est de la surprotection, de l'hypervigilance qui peut être néfaste, par exemple.
D'accord, merci Selena. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur le développement d'attachement sécure avec son enfant ?
Oui, et donc en termes beaucoup plus concrets, hein, pour entrer un peu plus dans le concret, on va dire que la première année, les scientifiques, ils ont mis en évidence plusieurs stratégies, on va dire, panel de comportements que la figure d'attachement a besoin d'avoir pour créer cet attachement sécure la première année. La première année, ça va passer vraiment par accepter tout d'abord que ses besoins du bébé sont essentielle et qu'on a besoin d'y répondre et de l'accepter pleinement pour pas vivre beaucoup de frustration, etc. C'est vraiment l'intégrer comme et accepter. Du coup, quand il y a une détresse, c'est aussi montrer, pas simplement y répondre, mais avec l'envie d'y répondre. Investir vraiment une relation chaleureuse avec l'enfant, lui donner des signes, consoler, apaiser, prendre dans les bras. On sait que plus on passe de temps proche physiquement avec l'enfant, ça déclenche de l'ocytocine. Et l'ocytocine nous permet de encore mieux répondre en fait aux besoins de façon tellement naturelle. On est tous équipés en fait de base pour répondre à ces besoins-là. Ça semble assez évident quand je vous en parle comme ça. Mais en réalité, un bébé, quand c'est hyper intense, quoi. Donc, plus si je m'éloigne de lui, je vais moins bien répondre à ses besoins. Plus je passe du temps avec lui, plus je vais le comprendre, plus moi, je vais me sentir compétente dans mon rôle de parent. Et vous voyez, c'est un cercle vertueux. Donc, plus je passe de temps avec lui, et plus ça favorise un attachement sécure. Le besoin voilà, de répondre voilà, au sourire, aux mimiques, les amplifier, ça aussi. Du coup, l'enfant se sent vraiment en relation et accepté. Et le point important, c'est d'avoir une attention réelle suffisante. C'est-à-dire que c'est pas je reste à côté de mon enfant et je suis sur mon téléphone. Non, je suis en interaction. Si je vois que quelque chose ne va pas pour mon enfant ou qu'il y a d'un coup il se met à pleurer et je ne comprends pas pourquoi, ça implique que je vais investiguer, que je vais prendre du temps pour vraiment essayer de comprendre c'est quoi qui a alerté mon enfant à ce point et que donc je vais aussi lui apporter une solution. Voilà, ça va, c'est tout ça, mis bout à bout. Et ensuite, à partir de 6 mois et 4 ans, c'est pouvoir favoriser ce système d'exploration qui va naturellement se mettre en place et donc soutenir cette exploration, cette curiosité naturelle, mettre en place la notion de coopération, de résolution de problèmes, et aider l'enfant après à évoluer et à traverser les émotions difficiles comme la colère, la frustration que vivent les enfants, voilà, autour de 2 ans, ça arrive très, très, très vite, où ils ont du mal, en fait, à accepter la colère et la frustration, parce qu'ils aimeraient tout savoir faire, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et donc là, l'attachement du parent, elle va comment répondre à ce besoin-là, avec sa disponibilité pour l'aider, justement, à canaliser cette colère, et à pouvoir voir avec lui quelle serait sa solution. Donc, en fait, l'attachement, les besoins, ils évoluent en fonction du stade de développement de l'enfant. Et ça demande en fait aux parents d'arriver à avoir une communication ouverte, flexible, libre, qui va pouvoir permettre derrière de négocier les conflits. Et petit à petit, l'enfant, quand il va avoir commencé à avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, arriver à développer des partenariats avec lui. Et donc, à travers un but commun, où mes objectifs, mais aussi les tiens, autour de notre projet commun, on va pouvoir se mettre d'accord. Voilà, et ça fait vraiment partie des compétences qui vont venir continuer de nourrir l'attachement au fil des années. Voilà.
D'accord. Alors là, pour l'instant, on a parlé de l'attachement sécure, qui était celui qui nous intéressait le plus. Mais quels sont les 3 types d'attachements qui sont construits durant l'enfance?
Alors, on est donc naturellement équipé pour y répondre. Hein, on a bien vu, hein, système d'alarme, on y répond, tout se passe bien, attachement sécure, on accompagne l'enfant. Mais, il y a un mais. Si nous-mêmes, on n'a pas reçu un attachement sécure et qu'on a développé un attachement de type insécure, eh bien, en fait, ça va être entravé, puisqu'il va y avoir des zones de nos cerveaux qui n'auront pas pu se développer aussi bien. Voilà. Et donc, tout ça va venir se réactiver avec nos enfants. Et donc, si je ne déclenche pas dans mon cerveau la zone du caregiving, donc du prendre soin d'eux, bah, c'est un terme de la théorie de l'attachement, eh bien, je viens déclencher en fait mon système de stress à la place. Parce que, voilà. Et c'est là où naissent les problèmes. Donc, des réactions de stress, c'est attaque, fuite ou figement. Et du coup, avec ces comportements-là, je ne permets pas de sécuriser mon enfant. Et donc, je risque de reproduire le type d'attachement insécure. Et donc, les 3 types d'attachement insécure, c'est l'attachement évitant, l'attachement anxieux ambivalent, et enfin, malheureusement, celui qui aura le plus de mauvaises répercussions, ça va être le désorganisé.
D'accord. D'accord. Merci.
On a du temps pour développer un peu ou...
Si tu veux, on peut y aller.
En fait, l'attachement évitant, il se construit de la façon suivante. C'est-à-dire que si je suis un enfant et que donc j'exprime des besoins d'attachement, ma figure d'attachement ou mes figures d'attachement ne viennent pas répondre. Cas classique. Je suis un enfant qui n'arrive pas à m'endormir, je pleure dans ma chambre. personne ne vient, je continue à pleurer. Il y a une forme de résignation, en fait, qui s'inscrit en moi. Et donc, oui, effectivement, au bout d'un moment, j'arrête de pleurer et j'apprends, de fait, à m'endormir tout seul. Mais à quel prix? Au prix d'un stress très élevé et d'une suradaptation. Et en fait, l'enfant, il apprend, finalement, à ne plus montrer des signaux d'attachement. Donc, il y a une inhibition de ses besoins d'attachement au profit de « je vais apprendre à me débrouiller tout seul ». Parce qu'en fait, quand je me débrouille tout seul et que je ne manifeste pas des réactions émotionnelles, on va dire, un peu fortes, eh ben, c'est la meilleure modalité pour garder la disponibilité et la présence de ma figure d'attachement. C'est une stratégie adaptative pour répondre à ce besoin d'attachement. Mais voilà, je vais me suradapter parce que si je ne dis rien et que je ne fais rien, eh ben, ma figure d'attachement elle reste avec moi. Vous voyez ? Et du coup, faire attention parce qu'en France, c'est quand même, ce sont souvent des enfants qui sont très valorisés en France. Parce que ce sont des enfants, par exemple, qui, quand le parent se part, il ne manifeste pas souvent de réaction au départ. Et on se dit, oh, bah tiens, il réagit bien, il est autonome, etc. Alors qu'en fait, il donne vraiment des signes, au point de vue de la théorie de l'attachement, que ce n'est pas normal. C'est qu'il devrait manifester que ça le rend anxieux, que sa figure d'attachement s'en aille. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ouais. Donc, faisons attention. Un enfant qui manifeste quelque chose au départ de sa figure d'attachement est quelque chose de normal. L'anxieux ambivalent, lui, il a bâti une autre stratégie, puisque son parent, par exemple, je vous donne un autre exemple. Si j'ai envie de faire du... J'ai envie de jouer avec quelque chose qui fait du bruit dans la maison. Allez. Là, d'un coup, mon parent, il vient avec moi, il joue avec moi, donc il est enjoué. Mais que deux jours après, je fais exactement la même chose avec le même instrument, mais que là, mon parent, il me gronde sévèrement. Et que le jour d'après, carrément, j'ai encore une autre réaction. Donc, il y a de l'incohérence qui se forme. Et du coup, au niveau de la stratégie, l'enfant, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il est dans une sorte d'imprévisibilité et d'insécurité. Donc, comme c'est trop dangereux de pouvoir me détacher pour aller vers l'exploration, bah, du coup, je vais rester toujours très proche de ma figure d'attachement. Donc, c'est les enfants qui ont du mal, justement, à aller vers autre chose puisque il y a trop d'insécurité dans ce lien-là. Et donc, je vais rester souvent collée, scotchée à ma figure d'attachement. Vous voyez ? Oh. Il y a des enfants qui développent ensuite de l'anxiété ou des signes de stress quand même importants. Il y a de l'anxiété quand la figure d'attachement part. Il y a de la colère quand il revient. Voilà. Donc, il y a toute cette ambivalence dans les réactions. Et enfin, le désorganisé... c'est le plus dramatique, hein. C'est j'ai un parent qui me frappe en souriant, il y a des comportements, du coup ça fait naître dans l'enfant. En fait, ma figure d'attachement est censée me protéger et donc je vais naturellement vers elle, mais en même temps il représente un danger tellement important que je n'ai pas trouvé de stratégie en fait. C'est un enfant qui n'a pas trouvé de stratégie pour combler ses besoins d'attachement et donc ça fait naître beaucoup d'incohérences, beaucoup de comportements ambivalents, mais vraiment de façon excessive. Et donc là, il y a vraiment des conséquences au niveau de la construction du cerveau et psychologique, et ça peut créer beaucoup de psychopathologies plus tard. Et vraiment de la difficulté à rentrer en relation et à comprendre les autres.
D'accord. Merci du coup, Selena, pour avoir bien expliqué ces trois types d'attachement. Alors justement, quelles sont les répercussions de ces trois types d'attachement à l'âge adulte ?
Alors après, dans une certaine continuité, hein, avec les éléments que je vous ai donnés, quelles sont les répercussions ? Ben, si je suis un enfant qui a eu un attachement sécure et qui a pu développer ses compétences, capacités, qui a pu faire des tests et à qui on a donné le droit à l'erreur, ben, naturellement, je vais être enclin à être un adulte qui a confiance en lui, qui va pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ne pas avoir peur de les montrer et en cas de besoin, ne pas avoir peur non plus de demander de l'aide. Mais qui va avoir vraiment des stratégies, va savoir ce qui est bon pour lui, cultiver des relations saines, poser ses limites et être heureux, en fait. Tout j'ai envie de dire, quand même, au final. Être connecté à ses besoins, ça permet surtout ça, l'attachement sécure. Si j'ai eu un attachement de type évitant, je vais être quelqu'un de plutôt angoissé, peut-être stressé, mais qui ne va pas le montrer. Donc, je garde beaucoup le contrôle de mon apparence, de ce que je ressens. C'est quelque chose de très intime, en fait. On a du mal à communiquer sur ce qu'on ressent et à le dévoiler parce que ça se met, on se met en vulnérabilité, hein, donc c'est des personnes qui ont une tendance au contrôle et qui vont avoir du mal peut-être à apporter du soutien aux partenaires aussi. Qui vont être aussi dans cette recherche de performance, d'insertion sociale ou professionnelle, qui vont beaucoup investir, puisque peut-être par manque de confiance en soi, on a besoin de se prouver qu'on réussit et on va rechercher la reconnaissance aussi à travers les yeux, voilà, voilà, dans d'autres domaines de sa vie, quoi, parce qu'elle nous a pu nous manquer. L'anxieux, il va vivre vraiment des émotions de façon intense, ça va être quelqu'un qui va vivre les choses de façon dramatique, il va avoir du mal peut-être à se positionner, il a cette besoin de proximité en fait dans la relation et en même temps il en a très peur, il va peut-être interpréter mal les actions des autres, il peut vivre aussi beaucoup d'angoisse, de colère quand il repense à ses expériences passées, dans son enfance, qui peuvent être très actives encore. Et quand l'enfant, du coup, quand cette personne-là devient parent, ça peut être douloureux pour lui, il peut se sentir très incompétent aussi parfois. Après, ce que je veux dire, c'est que tout ça sont des traits, des caractéristiques. Oui. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les cases. Ne pensez pas que, voilà, on répond à tous ces critères. Ce sont vraiment, on va dire, des tendances. Hein, donc, c'est comme pour tout, il y a des degrés dans tout ça. Et le désorganisé, lui, va être vraiment... toujours très stressé, la perte dans la relation, elle va recréer une désorganisation. Ce sont des personnes qui revivent leur trauma quand ils deviennent parents. Ça vient réactiver tout un tas de choses et c'est très difficile pour eux de comprendre les autres et de se sentir digne. Voilà, c'est vraiment ça qui se passe.
D'accord. Est-ce que dans l'attachement anxieux aussi, on a ce trauma qui revient quand quand on devient parent, ou c'est juste le désorganisé?
Il peut y avoir, parce que quand on a vécu des attachements insécures, ceci dit, ça représente 30-35% de la population, j'ai oublié de le dire. Hein. L'attachement sécure, c'est à peu près 50% de la population, 50-55%. Voilà. Oui, ça peut revenir vivre des traumas, puisque bah, quand on apprend que j'ai pas le droit, enfin, entre guillemets, j'intègre à l'intérieur de moi que c'est potentiellement dangereux, dans le cas de l'évitant, de montrer mes émotions. Ben, du coup, j'apprends pas à les gérer, mais du coup, ça a impliqué une suradaptation et donc un possible trauma, puisque quelqu'un n'est pas venu quand j'avais besoin. Donc oui, donc il y a des réactivations de trauma qui peuvent se faire dans tous les types d'attachements, hein, bien sûr. Mais le désorganisé, c'est continuel. C'est vraiment... Il faut s'imaginer que la personne, elle n'a pas trouvé une stratégie cohérente, en fait, pour être en relation. Et donc tout ça, ça impacte toute la sphère relationnelle avec l'autre, avec ses pairs et avec ses enfants. Ça peut être vraiment insurmontable. C'est une grande souffrance.
D'accord.
Là où l'anxieux, il va vivre vraiment une difficulté dans se sentir capable d'être le désorganisé, ça va beaucoup plus loin en fait. Au-delà de l'incapacité, ça peut prendre un coup, un rejet. Un coup je vais surinvestir la relation, d'un coup je m'en vais, ça va être très, très désorganisé comme son nom l'indique.
D'accord.
Je ne sais pas comment faire.
Merci Selena déjà d'avoir répondu à toutes nos questions. On va regarder maintenant les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Un témoignage d'ailleurs d'Audrey qui nous dit: moi j'ai eu un attachement insécure et franchement c'est un combat de tous les jours contre moi-même. J'essaie de faire mon mieux avec les enfants mais je l'observe que j'ai stressé mes deux garçons. Alors, est-ce que, une chose qu'on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant, c'est finalement, est-ce que d'un attachement sécure, une fois adulte, on peut passer à l'attachement sécure?
Alors, oui, il est possible d'évoluer. Tout n'est pas figé. On peut se réparer à tous les âges de la vie. Évidemment, c'est plus difficile à l'âge adulte que si, très tôt, par exemple, si je suis parent et je prends conscience que je peux engendrer, voilà, un style d'attachement insécure avec mes enfants, de modifier, moi-même je modifie ce comportement quand eux sont enfants, vu la plasticité de leur cerveau, voilà, ça va réparer beaucoup plus vite, hein, oui. Que quand on est adulte, oui, ça va passer par une psychothérapie, ça va passer par un travail sur soi, parce que notamment la relation sécure que va me permettre d'expérimenter mon thérapeute, par exemple, elle va permettre de construire dans mon cerveau d'autres modalités de rentrer en relation et de me sécuriser, que donc je vais pouvoir refaire réappliquer dans d'autres champs de ma vie. Alors, c'est pas aussi simple que ça, ça prend pas 2 jours, hein. Ça prend plusieurs années en général, mais oui, c'est possible. Quand bien même, il faut avoir garder à l'esprit que on n'efface jamais ce qu'on a vécu les premières années de sa vie. Ça, c'est ancré. Par contre, je peux, c'est comme une boîte à outils en fait. Je peux m'équiper de nouvelles compétences et je peux développer de nouvelles capacités relationnelles, de confiance en moi. Sans ça, mais ça s'effacera jamais. Par contre, je vais pouvoir, oui, accéder à des relations sécures en travaillant sur moi. Voilà, ça, c'est oui, c'est possible. Cas de stress, en cas de fort stress qui va se réactiver, ça va être les archaïques, ça va être les premiers styles d'attachement. C'est là où c'est le plus difficile. Parce que c'est vraiment les premiers réflexes ce qui vont revenir, ces premières modalités.
D'accord, merci Céline. Il y avait une autre question qui rejoignait un peu celle-ci d'ailleurs. Peut-on tout de même être parent si on a grandi sur un schéma d'attachement désorganisé, si on le met au travail avec un thérapeute, si on se met au travail avec un thérapeute?
Je n'ai pas la science infuse, mais oui. Je pense que c'est oui. Et la clé de succès dans la phrase, comme elle a été formulée, c'est en étant aussi accompagné. Ne pas hésiter, et c'est ça peut-être le plus dur en fait à faire, c'est de faire appel à l'aide à quelqu'un ou à une équipe. Et c'est ça le plus dur, parce qu'une fois qu'on y est, eh ben, on se sent soutenu. Et c'est là tout l'intérêt en fait de l'accompagnement. C'est que quand on se sent soutenu, eh ben, on arrive à aussi être un meilleur parent parce qu'on a cette base de sécurité qui se développe, qu'on n'a pas eue. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et aller au-delà de « je suis un mauvais parent, j'y arrive pas », cette culpabilité qui a plutôt souvent tendance à nous renfermer sur nos difficultés plutôt que d'aller chercher un aide. Parce qu'on s'est senti très seul en fait quand on a développé des attachements insécures. Donc on a du mal à aller appeler à l'aide. Donc oui, si on reste vraiment attentif à son enfant, à soi et qu'on a cette volonté, oui, en se faisant accompagner, je pense qu'on peut être un parent efficient, efficace et accompagnant.
D'accord, merci et merci beaucoup Selena. Alors, il y avait d'autres questions qui étaient dans la petite boîte à questions. Et Julie qui nous dit, quelle est la meilleure méthode de thérapie pour développer un attachement sécure adulte, s'il vous plaît?
La meilleure méthode, je ne sais pas. je dirais que donc c'est pas, je relis la question parce que je la vois sous mes yeux, pour développer un attachement sécure adulte, donc vis-à-vis de soi. Il y a différents types de thérapies qui existent et je pense notamment à quelque chose qui me vient en tête, à la psychothérapie intégrative, qui est vraiment un style de thérapie basé, qui travaille sur vraiment l'attachement. Donc c'est vraiment le fin fond de la base de cette thérapie, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, je pense que c'est une type de thérapie qui peut être très intéressante quand on a eu vraiment des troubles de l'attachement.
D'accord. Après, il y en a plein d'autres. Tu la pratiques ?
Moi, à titre personnel, je la pratique. Je suis moi-même en thérapie parce que je considère que la qualité de mon accompagnement, elle passe aussi par le travail que je fais sur moi, sur mes propres problématiques. Donc, oui, c'est une thérapie que je fais personnellement. Après, l'important, c'est surtout de trouver le thérapeute avec qui on va se sentir bien, on va être en confiance. Et si on va vers un thérapeute et que on ne se sent pas bien avec lui, il n'y a pas de mal. Changer, essayer d'autres personnes jusqu'à ce qu'il y ait vraiment cette sécurité relationnelle qui est pour moi, je pense, qu'il y a de plus important pour rétablir un attachement. C'est déjà d'être en relation et d'être dans la sécurité, la confiance. Ça vient déjà réparer beaucoup de choses.
Bien sûr. Merci beaucoup, Selena, d'avoir répondu à cette question. Alors, on en a une autre. On a Léa qui nous dit, un enfant qui a peur de personne, qui vraiment pourrait foncer avec n'importe qui, qu'est-ce que cela signifie?
Je réfléchis. Déjà, je n'ai pas l'âge de l'enfant, donc ça va être quand même voilà, on a besoin de connaître un petit peu l'âge pour pouvoir mieux répondre à cette question. Après, c'est voir si l'enfant est en capacité de parler, de pouvoir explorer avec lui, bah tiens, pour toi, le danger, c'est quoi? à ton avis, et d'essayer de voir, lui, c'est quoi sa représentation du danger, ou de quoi il a peur, et de pouvoir ensuite avoir cette discussion avec lui et de pouvoir lui parler, nous, de nos propres peurs, par exemple, quand lui, il s'en va avec n'importe qui, et donc partager soit son émotion, ce qu'on vit en tant que parent. Voilà, vous voyez, donc il y a vraiment ce process qui est important avec les enfants, c'est de pouvoir aller explorer avec lui sa perception, sa conception des choses, partager la sienne, pour ensuite aboutir à, ben justement, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on pourra arriver à un cadre où on va pouvoir se sécuriser mutuellement. Et où le parent, là, et ben il va pouvoir être sécure, en fait. Puisque, ben, non, c'est pas OK que tu t'en ailles comme ça. Mais c'est vraiment à voir avec l'âge de l'enfant. Puisqu'on va pas réagir de la même façon avec un enfant de 2 ans qu'avec un enfant de 8. Donc,
Bien sûr. Donc, s'il y a et par là, n'hésitez pas à répondre au moins à la question de savoir quel âge a l'enfant. Ça pourrait être intéressant et vous donner plus de conseils. On a Malessa qui nous dit « Bonjour, est-il possible de reconstruire ce lien avec des ados s'il y a eu des failles ?»
Oui, l'adolescence fait vraiment partie des moments clés où on revisite en fait son type d'attachement. Et donc, tout peut vraiment beaucoup se rejouer à ce moment-là. Donc, oui, complètement.
D'accord. On avait une dernière question qui avait été posée beaucoup plus haut. C'était... Ah oui, est-ce que notre attachement est en lien avec notre réaction face au conflit ?
Complètement. Oui, 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 oui. Pourquoi ? Parce que, justement, je reviens sur la notion que j'ai abordée peut-être rapidement tout à l'heure, c'est que quand j'ai bénéficié, dans le meilleur des cas, d'une communication libre et ouverte, voilà, avec mon parent, on va dire, qui est ma figure principale, enfin, une de mes figures d'attachement, normalement, importante, eh ben, si je n'ai pas éprouvé la négociation dans les conflits, ben, je peux en avoir peur et du coup surréagir et pas savoir comment le traiter. Et, ça fait, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que la négociation du conflit, ça, fait, ça montre vraiment la qualité d'un attachement très sécure. On est capable d'explorer le conflit, on est capable du coup de trouver des nouvelles modalités ensemble et on ne se sent pas attaqué ou en danger dans le conflit. Parce que quand je me sens attaqué ou en danger dans un conflit, effectivement, eh ben, je ne vais pas réagir de façon constructive, je vais réagir de façon avec mes réactions de stress. Donc je vais attaquer, je vais me défendre parce que je vais me sentir remise en question ou voilà. Et donc je ne vais pas pouvoir être dans la construction puisque là le but premier c'est de me remettre en sécurité. Vous voyez ? Et c'est ça qui peut se rejouer. Donc ça peut vraiment être en lien avec la qualité de l'attachement qu'on a reçu. Si je n'ai pas appris à négocier les conflits, ça va être peut-être difficile pour moi de le faire. Après, je le répète, l'attachement, il se développe avec tout un tas de personnes dans, dans notre vie. Et il évolue aussi en fonction de l'âge, hein, parce que c'est un processus dynamique hein, qui nous suit jusqu'à la mort. Et donc, on va peut-être développer des attachements sécures avec certaines personnes et avec d'autres des insécures. Voilà. Et donc, on ne va pas gérer forcément le conflit de la même façon avec une personne ou avec une autre.
D'accord.
Ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui.
Merci Selena. On va peut-être finir par une dernière question. Je ne sais pas si tu pourrais répondre, Juliane, qui nous dit « Comment savoir si mon enfant est sécure ou pas ?»
Il a quel âge cet enfant ? Je ne sais pas, moi non plus. Il y a besoin de... Comment dire ? Le parent, il a besoin d'observer. L'observation est votre meilleur allié. Si en cas de détresse ou de besoin, il manifeste sa détresse, eh ben, c'est déjà un bon indicateur qu'il y a un bon attachement. Parce que du coup,
il a 6 ans.
Il s'exprime. Comment ?
L'enfant a 6 ans.
L'enfant a 6 ans. Donc voilà, quand j'ai un enfant de 6 ans, il sait parler, il sait s'exprimer normalement avec un vocabulaire assez riche. Il est capable un petit peu de gérer aussi ses réactions émotionnelles. Mais en cas de besoin, eh ben, s'il a un attachement sécure, il va venir demander. Enfin, en tout cas, il va exprimer à un moment donné en disant... peut-être au moment du coucher, parce que c'est souvent des moments plus propices, parce que c'est pas quand on est dans le feu hein, de moments où on a besoin de préparer plein de choses et donc dans le stress, il n'y a pas d'ouverture à ces moments-là, et ça, nos enfants, ils sont très connectés à ça, donc ils vont pas venir nous parler de leurs problèmes, par exemple, à ces moments-là. Ils vont le faire à des moments où ils nous sentent un peu plus disponibles. Donc s'il y a une routine du soir qu'on partage le moment ensemble, où il n'y a plus toutes ces contraintes, etc., et que ça émerge, c'est que, voilà, j'ai envie de dire, il y a déjà un attachement de sécurité, puisqu'il en parle déjà. Après, à voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Peut-être aller aussi vers lui, c'est-à-dire pas attendre forcément que ce soit lui qui exprime s'il se passe quelque chose, mais être vraiment connecté. L'attachement, c'est quelque chose qui se nourrit. Hein. Donc, on a besoin de prendre des temps de qualité avec l'enfant, peu importe son âge. Des moments où juste on va s'intéresser, bah tiens, qu'est-ce que t'as aimé aujourd'hui, ou t'aimerais faire quoi. C'est vraiment s'intéresser à lui, à titre d'individu. Parce que souvent, le problème qu'on a dans nos vies hyper remplies, c'est qu'on ne prend pas forcément le temps juste de se parler. On est dans, y a ça à organiser, il y a ça à faire, et on est un peu en robot. Mais du coup, quand on est en robot, en fonctionnement automatique comme ça, on n'est pas vraiment connecté. Et donc, l'autre ne peut pas se déposer sur nous. Il y a cette image de porte-avions, donc, où nous, on serait des porte-avions, et les enfants, en fait, tournent, vont faire leurs explorations, et à un moment donné, quand ils ont besoin de se poser, ils viennent et ils vont se poser pour se recharger affectivement, etc. Donc, donner du temps, poser des questions et être vraiment disponible. Enlevez vos téléphones, hein, soyez dans la relation, même si c'est que 10 minutes par jour, ça fait déjà beaucoup.
D'accord. Merci, merci beaucoup Selena pour tous ces conseils et d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un message aujourd'hui à faire passer, soit sur toi, sur ton cabinet ou cet attachement sécure. Je te laisse la parole si jamais tu souhaites en dire un peu plus.
Oui, quelque chose. Oui, j'avais envie de vous partager quelque chose. Par exemple, pour les parents qui peuvent ressentir des difficultés quand justement leur enfant, ben, ils expriment, alors quand ils sont tout petits, par des cris, des pleurs, ce besoin d'attachement, et qu'on peut se sentir un peu excédé, ou notre enfant de 3 ans qui, dans ce besoin d'exploration, ben voilà, on a du mal à mettre ce cap, puisqu'eux, ils sont à fond, et on peut être très facilement énervé, ou se sentir stressé, ou en colère, parce que nous, on aimerait que ça se passe différemment. Moi, dans ces moments-là, je vous invite à respirer, peut-être prendre quelques minutes pour vous, pour pas abîmer la relation. C'est-à-dire que la surréaction, c'est un peu le pire ennemi de la relation. C'est ça qui vient détériorer. Et se reprojeter, par exemple, dans quand vous l'aviez juste dans vos bras quand il était petit. Ou à s'imaginer, ou à poser même sur écrit, faire cet exercice, de se dire ben, qu'est-ce que j'aime chez mon enfant ? Et du coup, d'associer mon enfant qui va venir créer une émotion positive. Du coup, et me remettre en relation avec lui de manière positive. Parce que ça va déclencher en fait de l'ocytocine. Et du coup, je vais être plus apte. Ça va faire baisser mon niveau de stress à l'intérieur de moi. Et ça va me rendre plus apte à aller négocier la situation sans surréagir. Donc voilà, c'était un peu la petite pépite que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. C'est vraiment cultiver ce lien positif avec notre enfant quand c'est difficile, de se rappeler qu'est-ce qu'on aime chez lui, comment c'était quand on l'avait contre soi, et tout ce que ça génère chez nous comme émotion ou ressenti par rapport à ça. Ça peut nous aider à traverser les moments un peu plus compliqués. D'accord. Et surtout, pas hésiter à demander de l'aide quand on ressent besoin d'aide.
Ça peut vraiment être... Merci beaucoup, Selena, de ce temps que tu nous as offert aujourd'hui, de ces précieux conseils. Je te souhaite une très belle journée et merci encore.
Ben, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la parole. C'était un plaisir. Et puis, à très vite.
Avec grand plaisir, Selena.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.